Vous m'entendez bien? Oui. Okay. Je vais vous inviter à prier. Oui, Seigneur, tu vois, ce matin, nous avons chanté que nous avions à cœur de pouvoir marcher pour toi et vivre selon ta loi. Et c'est notre désir suprême, Seigneur, que de vivre selon ta loi, de vivre selon ta parole, parce que ta parole est la vérité, parce que ta parole est cette lumière qui nous illumine, qui illumine nos vies. Elle est cette lumière qui met au grand jour ce que nous sommes réellement, Seigneur. Et cette parole aussi, c'est elle qui nous dévoile tout ton amour, tout ton pardon, toute cette grâce que tu as envers nous, Seigneur. Et merci parce que sans cette grâce, eh bien, nos vies n'auraient aucun sens. Et merci pour ce que tu nous offres à travers cette grâce. Que ce matin, oui, ta parole puisse agir dans nos cœurs comme dans le cœur de nos enfants. Que ta parole puisse nous transformer, Seigneur, afin que par nos vies, eh bien, ton nom puisse être glorifié aujourd'hui, demain et pour l'éternité. Amen. Alors je voulais continuer ce matin sur le thème des rencontres que Jésus-Christ a pu faire durant son ministère. Et je me suis dit également qu'en ce jour de 1er mai, eh bien, il serait opportun de parler aujourd'hui de travail. Tout simplement parce que en tant que chrétien, en tant que serviteur de Christ, eh bien, nous avons tous un rôle à tenir. Nous avons tous une tâche à accomplir quotidiennement, et que cette tâche, elle incombait à nous et qu'à nous seuls de l'accomplir. Alors le Seigneur m'a mis à cœur de partager avec vous ce matin la rencontre, cette rencontre brutale d'un homme et de Jésus-Christ, et qui de cette rencontre a fait de cet homme un ouvrier acharné au service du Seigneur. Et cet homme, c'est Saul de Tarse. Et je vous invite donc à prendre vos Bibles et de prendre le 9e chapitre des Actes. Et nous lirons les 6 premiers versets. Actes 9, versets 1 à 6. Cependant, Saul, respirant encore la menace et le meurtre contre les disciples du Seigneur, se rendit chez le souverain sacrificateur et lui demanda des lettres pour les synagogues de Damas, afin que s'il trouvait des partisans de la nouvelle doctrine, hommes ou femmes, il les amena liés à Jérusalem. Et comme il était en chemin et qu'il approchait de Damas, tout d'un coup une lumière venant du ciel resplendit autour de lui. Il tomba par terre et il entendit une voix qui lui disait « Saul, Saul, pourquoi me persécutes-tu » Il répondit « Qui es-tu, Seigneur ?» Et le Seigneur dit « Je suis Jésus que tu persécutes. Il te serait dur de regimber contre les aiguillons. » Tremblant et saisi d'effroi, il dit « Seigneur, que veux-tu que je fasse ? Seigneur, que veux-tu que je fasse ?» Alors qu'il se rendait à Damas, on voit donc Paul avec cette détermination furieuse à vouloir exterminer la foi de ceux qui annonçaient l'évangile de Jésus-Christ. Et on voit les projets de Saul stoppés net par le Seigneur lui-même, par le Seigneur en personne. Et cette rencontre bouleversera à jamais la vie de celui qui, de persécuteur de Jésus-Christ qu'il était, allait devenir par la suite l'apôtre Paul, l'auteur d'une grande partie des épîtres du Nouveau Testament. Et ce qui est remarquable dans cette histoire, c'est la rapidité avec laquelle Paul s'est soumis. À peine sut-il à qui il avait affaire, qu'il reconnut en Jésus-Christ son Seigneur, celui qui désormais allait diriger ses pas, celui en qui il se confierait, celui en qui il puiserait désormais ses forces, celui qui deviendrait sa vie. Et dès cet instant, Paul lui posa cette Eh bien, cette question incroyable qui montrait que désormais Paul avait changé de cap, qui montrait que ses objectifs personnels, eh bien, prenaient une nouvelle direction, qui montrait qu'il donnait désormais un nouveau sens, un nouveau but à sa vie. Seigneur, que veux-tu que je fasse? Et cette question, chaque enfant de Dieu devrait la poser au Seigneur Jésus-Christ, n'est-ce pas? Cette question, chaque enfant de Dieu devrait se la poser dès le matin, en se levant. Cette question, chaque enfant de Dieu devrait se la poser tout au long de la journée, en allant au travail, en allant à l'école ou en allant au marché. Cette question, chaque enfant de Dieu devrait se la poser constamment, tout au long de sa vie. Seigneur, que veux-tu que je fasse? Afin que, quoi que je fasse, en parole ou en œuvre, je le fasse en ton nom, pour ta gloire et ta gloire seule. Pour les chrétiens, le service pour le Seigneur n'est pas quelque chose que nous casons dans notre emploi du temps si nous avons une disponibilité. Servir, c'est le cœur même de notre vie sur terre, n'est-ce pas? Jésus est venu pour servir et donner, nous dit la parole de Dieu. Jésus est venu pour servir et donner, deux verbes qui devraient également définir notre façon de vivre. Combien d'entre nous, après avoir été sauvés, après même avoir été baptisés, se contentent de chauffer les bancs de nos assemblées? Il est vrai que le service va à l'encontre de notre penchant naturel, n'est-ce pas? Nous préférons généralement être servis que servir. D'ailleurs, lorsque nous cherchons une église, nous disons plutôt « je cherche une église qui répond à mes besoins et où je serai béni » plutôt que de dire « je cherche un endroit où je peux servir et être en bénédiction ». Nous attendons que les autres nous servent et non l'inverse. Avons-nous vraiment saisi que dans nos vies, il y avait deux types d'appels? L'appel au salut, certes, mais également l'appel au service pour le Seigneur. En effet, Dieu veut que tous les hommes soient sauvés. C'est pourquoi chaque personne aura été sollicitée pour ouvrir son cœur au Seigneur. Ouvrez-moi vos portes, venez à moi, ne vous endurcissez pas, déchargez-vous sur moi, sont autant d'invitations que le Seigneur nous adresse en vue de notre salut. Or, la Bible nous déclare aussi que le Seigneur a préparé à l'avance pour nous qui sommes sauvés des bonnes œuvres pour nous afin que nous les pratiquions. Chacun se voit confier une mission à accomplir par le Seigneur et pour le Seigneur. Et si la parole de Dieu en Éphésiens 4:11 nous rapporte que le Seigneur a donné les uns comme apôtres, les autres comme prophètes, les autres comme évangélistes, les autres comme pasteurs et docteurs pour le perfectionnement des saints en vue de l'œuvre du ministère de l'édification du corps de Christ, tous ne sont pas forcément appelés à exercer l'un de ces ministères. Mais Dieu a doté chaque personne, et à plus forte raison chacun de ses enfants, d'au moins un don, d'au moins un talent. 1 Pierre 4:10 nous dit « Comme de bons dispensateurs des diverses grâces de Dieu, que chacun de vous mette au service des autres le don qu'il a reçu. » Et cette vérité doit nous amener à ne pas rester oisifs, n'est-ce pas? Et c'est ce que la parabole des talents veut nous montrer. Dans l'évangile de Matthieu, chapitre 25, verset 14, il est écrit « Il en sera comme d'un homme qui, partant pour un voyage, appelle ses serviteurs et leur remit ses biens. Il donna 5 talents à l'un, 2 à l'autre et 1 au troisième, à chacun selon sa capacité. Et il partit. Aussitôt, Celui qui avait reçu les 5 talents s'en alla, les fit valoir et il gagna 5 autres talents. De même, celui qui avait reçu les 2 talents en gagna 2 autres. Celui qui n'en avait reçu qu'un alla faire un creux dans la terre et cacha l'argent de son maître. Longtemps après, le maître de ses serviteurs revint et leur fit rendre compte. Celui qui avait reçu les 5 talents s'approcha en apportant 5 autres talents. Et il dit, « Seigneur, tu m'as remis 5 talents, voici, j'en ai gagné 5 autres. » Et son maître lui dit, « C'est bien, bon et fidèle serviteur. Tu as été fidèle en peu de choses, et je te confierai beaucoup. Entre dans la joie de ton maître. » Celui qui avait reçu les 2 talents s'approcha aussi, il dit, « Seigneur, tu m'as remis 2 talents, voici, j'en ai gagné 2 autres. » Et son maître lui dit, « C'est bien, bon et fidèle serviteur, tu as été fidèle en peu de choses, et je te confierai beaucoup, entre dans la joie de ton maître. » Celui qui n'avait reçu qu'un talent s'approcha ensuite, et il dit, « Seigneur, je savais que tu es un homme dur, qui moissonne où tu n'as pas semé, et qui amasse où tu n'as pas vanné. J'ai eu peur, et je suis allé cacher ton talent dans la terre. Voici, prends ce qui est à toi. » Et son maître lui répondit, « Serviteur méchant et paresseux, tu savais que je moissonne où je n'ai pas semé, et que j'amasse où je n'ai pas vanné. Il te fallait donc mettre mon argent au banquier, et à mon retour j'aurais retiré ce qui est à moi avec intérêt. Ôtez-lui donc le talent, et donnez-le à celui qui a 10 talents, car on donnera à celui qui a, et il sera dans l'abondance. Mais à celui qui n'a pas, on ôtera même ce qu'il a, et le serviteur inutile, jetez-le dans les ténèbres du dehors, où il y aura des pleurs et des grincements de dents. » Jésus nous dit que la moisson est grande, mais qu'il y a peu d'ouvriers. Et cela signifie qu'il y a beaucoup à faire, n'est-ce pas, pour le royaume de Dieu. Mais que malheureusement, il y a aussi beaucoup de chrétiens qui font comme cet homme qui n'avait reçu qu'un seul talent et qui alla l'enterrer. Enterrer son talent, c'est le choix de la facilité, de la prise de risque minimum. C'est l'option choisie par ceux qui n'ont pas vraiment ce désir de servir le Seigneur. Et pourtant, quelle grâce de savoir que Dieu, qui a choisi, qui appelle, qui envoie des ouvriers dans son royaume, nous fait le privilège de nous associer au travail qu'il fait sur la terre pour l'épanouissement de son règne. Combien la parole de Dieu nous rappelle que nous sommes ouvriers avec Dieu. Dieu confie des tâches, des missions à des hommes et des femmes dont il fait ses ambassadeurs et à qui il donne la capacité et les dons appropriés à ce service. Rappelons-nous que le Seigneur a donné à chacun selon ses capacités. Dieu veut que nous puissions être acteurs. Il veut nous impliquer dans ce qu'il fait. Et chacun peut être acteur à son niveau. Pas simplement dans l'enseignement, mais aussi dans la prière, dans l'hospitalité, dans le dévouement, dans le discernement, dans l'encouragement, dans l'évangélisation, dans la foi, dans la générosité, dans l'intercession. C'est vrai qu'on peut être surpris que le talent ôté au mauvais serviteur doive être donné à celui qui avait déjà 10 talents. Mais là, derrière se cache un principe divin. On donnera à celui qui a, mais à celui qui n'a pas, on ôtera même ce qu'il a. Le service pour Dieu, ne concerne que ceux qui sont devenus véritablement chrétien par une décision personnelle. Le service pour Dieu n'est réservé qu'à ceux qui le connaissent personnellement et qui l'aiment vraiment. Et quand la grâce de Dieu a suscité en nous une réponse d'amour, alors ce que nous avons déjà reçu de lui non seulement ne nous sera pas ôté, mais il y sera ajouté de la grâce. C'est merveilleux, n'est-ce pas ? De la grâce supplémentaire. Et cela est déjà vrai aujourd'hui Et ce sera aussi vrai quand nous régnerons aussi avec lui. Ce que nous avons reçu ici-bas ne nous sera pas ôté. Et inversement, il se peut que la parole de Dieu ne suscite aucune réaction dans votre cœur. Et peut-être que vous la recevez, mais sans une réelle foi. Alors, eh bien, vous n'avez pas réellement Christ en vous et vous n'avez qu'une connaissance de Christ. Et un jour, eh bien, ce peu de connaissance de Christ, eh bien, même vous sera ôté. Ce mauvais serviteur que nous voyons là dans cette parabole ne représente pas du tout les croyants infidèles, mais des chrétiens sans vie. Et selon l'image que Jésus dépeint de cet homme, eh bien, cet homme prend carrément la place d'un vrai serviteur du Seigneur. Il est quelqu'un qui professe l'avoir pour maître et qui reçoit la connaissance de Dieu qui lui a été accordée, mais en fin de compte, qui n'en fait rien, ni pour lui, ni pour les autres, parce qu'il n'y attribue aucune valeur. Il fait valoir qu'il craint le maître, qu'il vivait dans une crainte de lui, mais si cela avait été vrai qu'il eût une crainte, qu'il eût de la crainte, alors il aurait au moins été obéissant. Mais il ne craignait pas de refuser l'obéissance à son maître. Il ne craignait pas de ne tenir aucun compte de la mission que son maître lui avait confiée. La crainte qu'il prétend avoir n'était qu'une crainte hypocrite et non pas la vraie crainte de Dieu. La vérité était que ce serviteur ne connaissait ni n'aimait son maître. Il n'a éprouvé à aucun moment eh bien, le privilège et l'honneur que ce maître montrait en voulant faire de lui un administrateur de ses biens, en lui donnant la possibilité de pouvoir agir avec comme s'il avait été le maître lui-même. Avec cette hypocrisie, eh bien, ce serviteur est l'image de tous ceux qui prétendent être à Christ et qui ne le connaissent pas et qui ne l'aiment pas. Jésus se sert de ce serviteur comme image de tous ceux qui le reconnaissent extérieurement comme Seigneur, mais qui n'ont intérieurement aucune relation vivante avec lui. Et face à de tels comportements, eh bien le Seigneur dira, ce ne sont pas tous ceux qui me disent Seigneur, Seigneur qui entreront dans le royaume des cieux, mais celui qui fait la volonté de mon Père qui est dans les cieux. Plusieurs me diront en ce jour-là, Seigneur, Seigneur, n'avons-nous pas prophétisé en ton nom? Et n'avons-nous pas chassé les démons en ton nom? Et n'avons-nous pas fait beaucoup de miracles en ton nom? Et alors je leur déclarerai, je ne vous ai jamais connu. Retirez-vous de moi, vous qui pratiquez l'iniquité. Il n'y avait qu'une chose que le serviteur muni d'un seul acte prouve par ses actes, c'est qu'il n'avait aucun intérêt pour son maître. La confiance que son maître place en lui, eh bien, ne le stimulait pas à tirer le meilleur parti de son talent. Et parce qu'il n'y avait aucune relation entre lui et son maître, eh bien, il s'en va, il creuse un trou dans la terre et il y cache l'argent de son maître. Vous savez, quelqu'un qui est conscient qu'il a mérité l'enfer et que c'est uniquement l'amour de Dieu manifesté par le Fils qui le sauve, eh bien, aura au fond de son cœur un amour en retour pour ce Dieu si miséricordieux. Si l'on n'a aucun sentiment de gratitude, c'est qu'on n'a pas encore compris ce que le Père et le Fils ont fait pour nous. Mais normalement, celui que Dieu a sauvé de l'enfer ressent de l'amour pour Dieu et désire lui plaire et faire quelque chose pour lui. Il est clair que l'on ne peut rien faire pour être sauvé. Aucune œuvre, aucun argent, rien de ce qui vient de l'homme souillé ne peut le rendre pur. Notre service n'a donc aucun rapport avec le salut éternel que Christ nous a acquis à la croix par grâce, mais par amour et par reconnaissance, eh bien, nous désirons plaire à Dieu et faire ce qu'il nous demande. Par amour pour Dieu, nous voulons faire quelque chose pour Dieu. Et tout ce que nous faisons, nous voulons le faire de bon cœur pour lui et pour lui seul et non pour les hommes. Le service devient alors l'expression profonde de ce que nous ressentons pour Dieu. Le service devient le moyen de le glorifier dans nos vies. Le service devient le moyen d'exprimer notre reconnaissance envers celui qui nous a sauvés. Le service devient le moyen d'être utile pour lui, de partager avec d'autres croyants ce que nous avons découvert en lui. Le service devient le moyen d'accomplir les œuvres que Dieu a préparées pour lui. Oui, Dieu veut que tous les hommes soient sauvés et il désire se servir d'instruments humains pour faire connaître sa personne et son message, alors que nous puissions être ses instruments entre ses mains. L'engagement dans le service dépend d'un choix librement consenti de notre part, d'une décision constamment renouvelée, avec ce réel désir de faire les choses sans chercher à se glorifier nous-mêmes par intérêt ou par orgueil, mais avec cet esprit de service et d'humilité qu'avait Jésus-Christ lui-même. Ne faites rien par esprit de parti ou par vaine gloire, mais que l'humilité vous fasse regarder les autres comme étant au-dessus de vous-même. Que chacun de vous, au lieu de considérer ses propres intérêts, considère aussi ceux des autres. Ayez en vous les sentiments qui étaient en Jésus-Christ, lequel, existant en forme de Dieu, n'a point regardé comme une proie à arracher d'être égal avec Dieu, mais s'est dépouillé lui-même en prenant une forme de serviteur, en devenant semblable aux hommes et ayant paru comme un simple homme. Il s'est humilié lui-même, se rendant obéissant jusqu'à la mort, même jusqu'à la mort de la croix. Jésus était et est ce modèle de serviteur fidèle. Et puisque les chrétiens sont censés être des images de Christ, eh bien cela signifie qu'ils doivent aspirer eux aussi au service. Leur motivation ne doit pas être la recherche des honneurs, de la gloire des hommes, mais une réelle envie d'être utile au Seigneur en contribuant aux intérêts des autres. En effet, un homme ou une femme de Dieu authentique, eh bien, sera avant tout un serviteur ou une servante. Jésus nous dit : le plus grand parmi vous sera votre serviteur. Le plus grand parmi vous sera votre serviteur. Vous voulez être grand ce matin ? Eh bien, soyez des serviteurs. Car le Fils de l'homme est venu non pour être servi, mais pour servir et donner sa vie comme la rançon de plusieurs. Combien d'entre nous sommes animés de ce désir ? Qu'est-ce que le Seigneur vous a mis à cœur de faire pour sa gloire ? Le Seigneur nous rappelle dans son serment sur la montagne qu'il y a tant de cœurs à secourir. Heureux ceux qui se reconnaissent spirituellement pauvres, car le royaume des cieux leur appartient. Heureux ceux qui pleurent, car Dieu les consolera. Heureux ceux qui sont humbles, car Dieu leur donnera la terre en héritage. Heureux ceux qui ont faim et soif de justice, car ils seront rassasiés. Heureux ceux qui témoignent de la bonté, car Dieu sera bon pour eux. Heureux ceux dont le cœur est pur, car ils verront Dieu. Heureux ceux qui répandent autour d'eux la paix, car Dieu les reconnaîtra pour ses fils. Heureux ceux qui sont opprimés pour la justice, car le royaume des cieux leur appartient. Vous voyez, il y a tellement de cœurs en quête de Dieu à toucher. Il y a tellement de cœurs à secourir. Et peut-être avez-vous ce matin reçu un fardeau pour venir en aide aux sans-abri, pour aller distribuer de la nourriture aux plus démunis, pour vous rendre au chevet des malades dans les hôpitaux ou pour aller visiter des prisonniers. Peut-être aspirez-vous à vous occuper des personnes âgées seules, à mettre à disposition votre maison pour exercer l'hospitalité, à parcourir le monde pour annoncer l'Évangile, à écrire des livres chrétiens ou à chanter pour Dieu. Eh bien, qu'il en soit ainsi, si telle est la volonté que vous le serviez de la sorte. Car le Seigneur lui-même nous encourage en ces mots, n'est-ce pas ? Venez, vous qui êtes bénis de mon Père, prenez possession du royaume qui vous a été préparé dès la fondation du monde. Car j'ai eu faim et vous m'avez donné à manger. J'ai eu soif et vous m'avez donné à boire. J'étais étranger et vous m'avez recueilli. J'étais nu et vous m'avez vêtu. J'étais malade et vous m'avez visité. J'étais en prison et vous êtes venu vers moi. Et les justes lui répondront, « Seigneur, quand avons-nous vu avoir faim et t'avons-nous donné à manger, ou avoir soif et t'avons-nous donné à boire ? Quand avons-nous vu étranger et t'avons-nous recueilli, ou nu et t'avons-nous vêtu ? Quand avons-nous vu malade ou en prison et sommes allés vers toi ?» Et le roi leur répondra, « Je vous le dis en vérité, toutes les fois que vous avez fait ces choses à l'un de ces plus petits de mes frères, eh bien c'est à moi que vous les avez faites. » Il y a tant de choses à faire, n'est-ce pas, pour le Seigneur. Et sachez que tout cela et bien plus encore est possible, mais pourvu que vous soyez à la place que le Seigneur a choisie pour vous. Pourvu que vous soyez à la place que le Seigneur a choisie pour vous. La moisson est grande, le travail ne manque pas, mais rappelons-nous que c'est le Seigneur qui nous appelle à une tâche. C'est lui qui choisit ses ouvriers. C'est lui qui nous dit s'il a besoin de nous ici, dans son église de Ris-Orangis, comme il pourrait aussi très bien nous envoyer également aux extrémités de la terre, s'il était sa volonté. Ce n'est pas vous qui m'avez choisi, mais moi, je vous ai choisi et je vous ai établi afin que vous alliez et que vous portiez du fruit, et que votre fruit demeure, afin que ce que vous demanderez au Père en mon nom, eh bien, il vous le donne. Il y a de nombreuses fonctions dans le corps de Christ, et chaque membre y a sa place. Mais il faut savoir que si nous devons y exercer un ministère spécifique, eh bien, cela doit dépendre du choix et de l'appel du Seigneur. Parce que si notre service n'est basé que sur une motivation personnelle ou par un intérêt personnel sans qu'il vienne de Dieu, eh bien notre entreprise sera vouée à l'échec. Dans 2 Corinthiens chapitre 6, verset 1, la parole de Dieu nous dit « Puisque nous travaillons avec Dieu, nous vous exhortons à ne pas recevoir la grâce de Dieu en vain. » La grâce de Dieu est pleinement apte à accomplir ce pourquoi elle est donnée si seulement on la laisse agir. Laissons-nous nous conduire par le Seigneur, tout simplement, à l'image d'Abraham qui le suivit par la foi. Ayons foi en Dieu, tout simplement, et il nous donnera la capacité de faire son œuvre. Parce que c'est Dieu qui donne la force de le servir. Vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. Ma grâce te suffit, car ma puissance s'accomplit dans la faiblesse, et je me glorifierai donc bien plus volontiers de mes faiblesses, afin que la puissance de Christ repose sur moi. Mais ceux qui se confient en l'Éternel renouvellent leur force, Ils prennent leur vol comme les aigles. Ils courent et ne se lassent point. Ils marchent et ne se fatiguent point. Je lève les yeux vers les montagnes. D'où me viendra le secours? Le secours me vient de l'Éternel qui a fait les cieux et la terre. C'est Dieu qui nous donne la force de le servir. Certes, servir le Seigneur ne sera pas de tout repos et non sans difficulté, mais une chose est sûre, c'est qu'il ne sera pas vain. C'est une promesse de Dieu lui-même. Si nous demeurons fermes, inébranlables, travaillons de mieux en mieux à l'œuvre du Seigneur, eh bien notre travail ne sera pas vain dans le Seigneur. Ne perdons plus notre temps. Rachetons le temps, comme nous exhorte la parole. Consacrons-nous et rendons-nous utiles à Dieu. Soyons fidèles dans tout ce qu'il nous a confié et le Seigneur ne manquera pas d'être glorifié. Mais avant cela, avant toute chose, commençons par demander au Seigneur, « Seigneur, que veux-tu que je fasse ? Seigneur, que veux-tu que je fasse ? » Car c'est sa seule et unique volonté qui doit guider nos pas, nos faits et nos gestes. Et j'aimerais terminer par une dernière déclaration du Seigneur, une déclaration merveilleuse de Jésus-Christ à notre égard. Et Jésus-Christ nous dit, « Vous êtes mes amis si vous faites ce que je vous commande. Je ne vous appelle plus serviteur, parce que le serviteur ne sait pas ce que fait son maître. Mais je vous ai appelé ami, parce que je vous ai fait connaître tout ce que j'ai appris de mon Père. » C'est merveilleux, n'est-ce pas? Lui, en tant que roi des rois, Seigneur des seigneurs, Dieu tout-puissant, eh bien c'est la plus grande marque de respect et d'amour que le Seigneur peut nous adresser, nous qui sommes tellement faibles et inconstants, que de nous appeler amis. Eh bien, que par nos vies, que par notre service, eh bien nous puissions être dignes de ce statut d'amis que Jésus-Christ nous a offert et nous offre encore aujourd'hui au prix de sa vie. Amen.